Salut, c'est la mère au panier, nous sommes Marie et Clément. Chaque semaine, on vous parlera d'élevage, de bonne bouffe, de philosophie, de poésie. On passera des idées reçues à la moulinette, tout en s'égratignant au passage. Bref, on va vous mettre la mère au panier.
Let me take you on a little trip, my supersonic ship. At your disposal if you feel so inclined.
Salut à tous et bienvenue dans La Main au Panier. Cette semaine, on a décidé de vous parler de la PAC qui doit être réformée très prochainement. Ça risque d'être un peu barbant car on ne peut pas couper à une présentation historique du truc, histoire que chronologiquement tout le monde capte bien de quoi il s'agit. Non, PAC ne veut pas dire petit apéro et cacahuètes. Il s'agit bien sûr de la politique agricole commune, qui comme son nom l'indique, nous partageons avec nos voisins de toute l'Europe. Petit topo historique.
La politique agricole commune a vu le jour en 1962 lors du traité de Rome. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les prix mondiaux des céréales sont particulièrement élevés alors que les pénuries se succèdent. Les pays européens sont confrontés à de faibles capacités de production ainsi qu'à une forte volatilité des prix en raison des aléas climatiques. Elle répond également dans la vision de l'époque à des besoins d'accroissement de la productivité agricole, de stabilisation des marchés et de sécurité des approvisionnements. Le double objectif également affiché à cette époque, garantir des revenus satisfaisants aux agriculteurs ainsi que des prix convenables aux consommateurs. LOL.
Voilà l'idée de base. Tous les ans, la communauté européenne fixe pour chaque secteur de production, céréales, viande, lait, des prix garantis supérieurs à la moyenne mondiale. La quantité que le producteur ne parvient pas à vendre est rachetée par la communauté à ce prix pour être ensuite stockée puis revendue plus tard sur le marché intérieur, exportée vers les marchés tiers ou bien encore détruite. Parallèlement, les produits importés sont taxés de manière à ne pas concurrencer les produits européens. De leur côté, les exportations font l'objet d'un soutien, restitution, le producteur perçoit un complément lorsqu'il vend hors de la communauté, la différence entre le prix mondial et le prix européen plus élevé. Outre la stabilisation des prix, cette politique administrée a pour effet d'augmenter considérablement la production et la productivité agricole de la communauté. L'agriculteur est en effet incité à produire davantage, puisque sa production est toujours écoulée.
En 1968, la création de l'union douanière supprime les droits de douane intracommunautaires. Un marché unique pour les produits laitiers, la viande bovine ou le sucre voit alors le jour. La PAC des années 1960 et 1970 remplit parfaitement ses objectifs de productivité et de sécurité des approvisionnements, au point de devenir victime de son succès, c'est-à-dire la production dépasse rapidement la consommation, en particulier dans le secteur du lait, et la gestion de ses excédents, rachat, stockage, restitution aux exportations, coûte très cher à la communauté. Les taxes à l'importation ne suffisent pas à consolider le budget de la PAC, alors principalement alimenté par une contribution des États membres.
Slim and weak, you got the teeth of the high.
La PAC suscite par ailleurs de nombreuses critiques des pays tiers, qualifiant l'Europe de forteresse. Les prélèvements aux frontières rendent en effet les produits importés peu concurrentiels et les subventions aux exportations sont perçues comme une concurrence déloyale et ont pour effet de faire chuter les prix mondiaux. Enfin, les effets néfastes du productivisme se font sentir sur le plan environnemental, avec l'utilisation intensive d'engrais et la concentration géographique des élevages qui engendre notamment la pollution des nappes phréatiques.
Premier gros virage en 1984. Le Conseil européen de Fontainebleau instaure le principe de la discipline budgétaire. Ainsi, les dépenses agricoles ne pourront pas augmenter plus vite que les ressources propres de la communauté. Afin de juguler la surproduction, l'Europe met également en place des quotas laitiers cette année-là. Par la suite, les oléagineux et les céréales sont soumis à des quantités maximales garanties, au-delà desquelles le soutien est réduit. Des mesures structurelles sont également instaurées, incitation financière au gel volontaire des terres ou à la cessation d'activité des agriculteurs âgés. La modification des techniques de production, notamment par l'extensification, et des primes à la diversification.
La réforme de 92 poursuit l'objectif de résorber durablement la surproduction et les dépenses de la PAC. Elle s'attaque alors directement au système des prix garantis, qui subissent une forte baisse, les producteurs recevant en contrepartie des aides directes sous forme de primes à l'hectare ou à l'animal. Une partie de leur exploitation doit être mise en jachère obligatoire. La protection douanière et les subventions à l'export sont considérablement réduites. Enfin, la réforme introduit également des mesures incitant les producteurs à utiliser des méthodes plus respectueuses de l'environnement. Ces mesures parviennent à limiter la production et à assurer la compétitivité de l'agriculture européenne au niveau international par un rapprochement avec les prix mondiaux. En revanche, la compensation de la baisse des prix garantis par des paiements directs ne diminue pas les dépenses de la PAC. Il ne s'agit que d'un transfert de charges du consommateur au contribuable.
En 2003, la PAC fait l'objet d'une nouvelle réforme de fond, encore, poussée par ses partenaires extérieurs, l'Union européenne met en place le découplage des aides aux producteurs. Désormais, la majeure partie de ces aides n'est plus accordée en fonction du type et de la quantité de production, mais de la surface de l'exploitation et du nombre de têtes de bétail. L'agriculteur est donc incité à s'adapter au marché et non aux décisions de production de la communauté. Pour recevoir ces aides, il doit par ailleurs respecter un certain nombre de critères environnementaux et de bien-être des animaux. Enfin, une partie du budget de la PAC est réorientée vers le développement rural. La suppression progressive des quotas laitiers pour 2015 est décidée.
Cette liberté augmente à nouveau avec la réforme de 2013. Cette réforme poursuit l'ambition de favoriser des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Malgré de nouvelles incitations et le développement en parallèle d'une agriculture biologique et raisonnée, les pratiques nocives pour la santé et l'environnement perdurent. Ainsi, en novembre 2017, le renouvellement du glyphosate, l'herbicide le plus répandu dans le monde suspecté d'être cancérogène, suscite de vives critiques de la part des ONG et des citoyens européens. Bref, nous pensons, vous l'avez compris, que tout ça est très compliqué et difficilement efficace à l'échelle d'un territoire aussi vaste que l'Europe. Aucune inégalité ne sont gommées et le système entretient toujours les mêmes pratiques de fonds productivistes. Alors, la dernière réforme en date qui devait sauver la planète par un soutien à la bio et aux petites structures plus vertueuses, tout est retoqué. Étrange, non?
Il nous semble assez fou qu'on diminue les aides pour la bio, alors que la tendance et la demande des gens en matière d'alimentation, c'est quand même d'aller vers le mieux. Malheureusement, il est pour l'instant et pour longtemps, nous le craignons, encore plus simple de faire du conventionnel sans trop se poser de questions que de faire mieux. Les institutions comme la Chambre d'agriculture, le PAIT ou les banques se tiennent tous la main pour encourager un seul et même système, en l'occurrence, celui où ils ont des données technico-économiques. Pourtant, le label agriculture biologique, qui existe depuis 1985, progresse entre 8 et 20% par an en fonction des produits. On est toujours dans un contexte de déprise agricole. Pour pallier à la demande croissante, il existe plusieurs leviers. L'installation de nouvelles fermes, la conversion des terres, mais aussi l'assouplissement du cahier des charges de l'agriculture biologique. Et oui, ça c'est le revers de la médaille. Afin de motiver plus de gens à passer en bio, à plus grande échelle, on ajoute des clauses moins contraignantes où on ferme les yeux sur le prix social de ce nouveau bio avec des esclaves de toute l'Europe ou plus loin qui travaillent comme des tordus pour désherber, récolter, tailler, etc. Alors oui, ils sont payés et ils font le boulot que tous les petits Français ne veulent pas faire. Pour autant, ce système doit-il être subventionné plein pot? Le modèle ne mérite-t-il pas plus de remise en question? La difficulté d'un cahier des charges? d'une règle commune reste la même. Comment réussir à construire un outil qui représente toute la diversité des terroirs et des pratiques agricoles sur un territoire aussi vaste que celui de la France?
Un dernier mot. À la ferme Bacotte, nous ne sommes pas en bio. 95% de ce qu'on consomme en céréales, c'est pour les cochons. Le reste, c'est pour faire passer les chèvres aux quais de traite et entretenir un peu d'état corporel. À part ça, les chèvres ne mangent que dehors. On achète 20 boules deux fois par an pour les aider un peu l'hiver. Il nous semblait plus logique d'acheter la céréale à nos voisins, qui nous filent des coups de main depuis toujours, plutôt que du bio d'on ne sait où. Pour l'instant, nous n'avions pas la possibilité de cultiver parce que nous n'avions pas de terre labourable. Ça devrait changer l'année prochaine et on envisagera la conversion. Concrètement, on n'y gagnera rien. On est transparent, nos clients savent comment on bosse. C'est plus pour l'idée, parce que le label reste un bon repère pour les gens, une patte blanche. Même si c'est critiquable sous plein d'aspects. Voilà, on n'est pas spécialiste du sujet, hein, simplement on s'y intéresse et on baigne dans l'absurdité de la chose tous les jours. C'est souvent un pas en avant, trois pas en arrière. Et si tu trouves qu'on est un peu radical, si tu préfères les propolis, blagues d'apiculteurs, eh bien dis-toi qu'en face, personne ne s'est jamais trop gêné pour nous dire qu'on était des poètes. D'ailleurs, on en a fait une blague et une revendication. Allez, bisous les lapins.
Excuse me, I don't think there's anything wrong with the action on this piano. The fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight, but the shingling's a thing tonight. But if that was you and me, I'd have, baby, I would have shown you how to do it right. Do it right.
Take these axes.
Naturally, and as usual, I gotta take an IOU.